Alors on attend la fin de la pureté de 7 jours, et le lendemain, vous voyez de nouveau le même rite, 7, 8. Alors ce qu'enseigne le Midrash, donc il y a un problème là, je ne sais pas si on aura le temps d'étudier, pourquoi la naissance entraîne une impureté. Plus que ça, la naissance est une naissance du dedans de l'impureté. Tout se passe comme si, d'ailleurs les termes employés par la Torah et le Talmud sont des termes assez macabres que je ne vous situe pas, tout se passe comme si on est d'une tombe. Et l'enfant qui naît est sauvé d'une tombe, et ce qui reste, c'est la tombe impure. Il faut attendre que la pureté revienne. Pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce que ça signifie? Ça s'étudie. Okay. Mais simplement, je vous donnerai une remarque. Vous y réfléchirez. Ça, les sages-femmes, il faut être sage-femme pour bien comprendre ça. Lorsqu'il y a la conception, il y a une partie de ce qui est conçu qui va devenir la vie, c'est l'enfant qui va naître, et une autre partie, le placenta, qui va être finalement, qui est tout de suite au moment de la naissance, un cadavre. Tout se passe comme s'il y a un jumeau de l'enfant qui va naître, qui a accompagné l'enfant pendant toute la conception, mais qui finalement, lui, le placenta, devient l'impureté du cadavre. Bon, l'idée, c'est que la vie est une réalité qui entraîne le déchet d'impureté d'elle-même. Le fonctionnement de la vie crée des cadavres. Voilà, essayez de comprendre un petit peu l'idée qu'il y a là. Alors, il y a un temps d'impureté dont il faut se guérir. Alors, le Midrash a donné comme comparaison, encore une fois, je prends le niveau de vocabulaire de la comparaison, mais c'est plus que ça. À l'échelle d'un individu, cette impureté de la naissance, c'est 7 jours. À l'échelle de la nation, c'est 7 fois 7 jours. Alors, donc, tout ce temps dure au vert. C'est un temps difficile de ce qu'a entraîné la naissance qu'il faut passer pour arriver au lendemain des 7 semaines, ce 8e jour décalé, qui est la véritable délivrance. Vous avez suivi l'idée? Ah oui, la comparaison qu'il y a, remarquez, de nouveau, il y a convergence. On ne peut pas dire que c'est par hasard que la paracha de la semaine de Yom HaTzmaout, c'est d'Afka, la paracha de Tazria. Alors retenez la formule, c'est qu'il y a un temps vulnérable qui est la rançon, je ne sais pas comment dire, le contre-coup de cette naissance même de Pessah, qui est tout ce temps qui nous lie à Shavuot. Il y a une ascension de 49 degrés qu'il faut réussir pour arriver au 50e, qui est le jour de Shavuot. D'ailleurs, vous remarquerez que la Torah a demandé qu'on compte 50 jours cette semaine, mais en fait on ne compte que 49 jours, le 50e on ne compte pas. Si on a compté les 49 degrés, les 49 jours, le 50e est donné comme couronnement. Et c'est pourquoi s'il y a interruption dans le compte, il faudra recommencer l'année d'après. Mais réfléchissez bien que le sens spirituel de cette période du Homer, c'est une ascension de degré en degré de mérite à partir du niveau de la libération proprement physique nationale d'Israël, la sortie d'Égypte, événement historique concernant la nation comme corps d'Israël, pour arriver à l'événement de Shavuot, qui est la véritable libération spirituelle, le jour où on a donné un nom à l'enfant qui est né, c'est le jour de la circoncision. Et effectivement, c'est au moment de Shavuot, au moment de Matan Torah, Israël devient lui-même après cet événement de la sortie d'Égypte. Je n'ai pas fini. Ce sont donc deux niveaux très différents, mais c'est lié. Vous voyez, Shavuot, c'est Shavuot de Pessah. C'est un même ensemble. C'est relié. Qu'est-ce que tu veux dire?
Tout à l'heure, j'ai peut-être même compris. Comment se fait-il que les événements de Yom HaTzmaout, etc., tombent pendant cette période de l'Homer? Et comment se fait-il qu'on compte les jours de Pessah, Shavuot, pour le matin du pouvoir arriver au matin de Torah et au 50e jour? Et c'est en même temps une période de deuil. Tout ça, c'est encore
plus. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par là tout à l'heure, que le fait que ce soit une période de deuil, c'est postérieur, c'est tardif. C'est à partir du temps de Bar Kokhba et des Romains. Mais la période en elle-même, avant cela, avant cet événement historique, où ça s'est dévoilé, que c'est une période vulnérable, dangereuse, la période elle-même, depuis toujours, cette période du Homer, C'est une période sensible. C'est le passage de la libération nationale physique à la libération de la nation spirituelle. Et alors, l'idée qu'il faut retenir, ça correspond à ta question, c'est que tout événement qui vient renforcer, consolider cette libération se situe là. Et tout événement qui vient au contraire la contrarier se situe là. Voilà, l'idée, j'essaie de vous la simplifier au possible. Okay ? Là, j'ai en tête des centaines de pages de références. Mais pour vous simplifier cette idée, c'est très simple. Cette période, c'est un ensemble de temps en soi. Shavuot n'est pas autonome dans le calendrier. Shavuot, c'est Atzeret de Pessah. C'est la clôture d'une période qui commence à Pessah. Et cette période, c'est cette période d'impureté qu'il y a. Le contre-coup de la naissance, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point nous vivons cela à certaines échelles d'événements. Depuis les 45 ans de l'existence de l'État, à quel point on est encombré de toute une série de d'événements qu'il faut résoudre, comme si on a un bilan de 2000 ans qu'il faut traiter en quelques dizaines d'années. 1000 problèmes de 2000 ans d'histoire juive, on est en train de les rassembler dans une petite société, la société israélienne, et ça doit se régler de manière accélérée. Je ne sais pas si vous remarquez de quoi je parle, Ken. Des tribus juives de 120 000 manières différentes d'être juives à travers 2000 ans, c'est énorme, qui se rencontrent 2000 ans après et qui mettent en commun tous leurs problèmes face au monde entier et aux rabbins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Okay. Et alors, tout ça, c'est une omelette avec des œufs cassés. C'est des œufs de Pâques, bien sûr. Et alors, là, c'est ce temps-là, ce temps très difficile qu'il faut arriver à passer. Alors, je n'ai pas voulu vous dire, et je ne vous ai pas dit, que 50 ans après la fondation de l'État, ça ira mieux. Mais enfin, on est dans cette période de Pessah à Shavuot, à l'échelle des années aussi. Lorsque les historiens non-juifs, comme j'ai parlé tout à l'heure, surtout les sociologues, étudient l'histoire israélienne, ils sont effarés de voir le bilan d'événements qui se sont passés en 50 ans. Moi, j'ai eu le privilège de les vivre tous, un après l'autre, dans leur contexte international d'ailleurs, depuis la Shoah y compris, mais vous n'avez aucune idée à quel point notre génération est spéciale. Elle a une accumulation d'événements d'une massivité qu'on n'a jamais connue en un aussi petit court espace de temps. Vous vivez ça de façon décontractée, je suppose, plus ou moins. Mais sachez que les fondateurs du pays ont vécu des temps héroïques et nos maîtres de la génération, je cite en particulier Rav Tzvi Yehuda, nous disent, et ce n'est pas du tout une exagération, que ce sont des événements beaucoup plus importants que ceux de la sortie d'Égypte. L'histoire d'Israël n'a jamais eu d'un coup, dans ces 50 ans, une telle envergure à l'échelle mondiale. Jamais, depuis le commencement de l'histoire de l'humanité. Ça ne s'est jamais vu. Et on vit ça au jour le jour. Alors, c'est une espèce de récapitulation d'un bilan de 2000 ans d'histoire, qui a lui-même sa propre préhistoire de 4000 ans. Et alors, tout ça, c'est à résoudre. Et alors, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que lorsque une naissance est apparue, il y a un temps vulnérable jusqu'à la véritable maturité. Est-ce que c'est clair ? Alors, on ne peut pas ne pas prendre acte de cela. Tous les événements qui mettent en question cette libération de l'Égypte, l'indépendance nationale acquise au temps de Moïse, viennent apparaître là. Et tous les événements qui, au contraire, viennent la renforcer, se situent là. Vous voyez, c'est dans la période du Homer que les élèves de Rabbi Akiva se sont chamaillés, et c'est dans la période du Homer que la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai les a sauvés. Tout ça, ça nous dépasse, mais c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est clair ? Je vais vous donner un autre éclairage. Le kabbaliste nous a enseigné que, en ce qui concerne ce problème des événements la réussite de ce qui a commencé à la sortie d'Égypte. Tous les événements qui se passent entre Pessah et Shavuot sont sous le principe de la miséricorde de Dieu. C'est Chesed. Effectivement, vous verrez dans notre histoire israélienne contemporaine, ce qui s'est passé entre Pessah et Shavuot, c'est toujours une réussite miraculeuse. Par exemple, la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance, finalement, a réussi dans cette période-là. Et encore une fois, il faut... nous avons vécu ces événements. C'est irracontable. Même, vous aurez voir des films, des encyclopédies, des archives de journaux, vous ne saurez pas ce que ça a été, de jour en jour, une chose inouïe, un peuple de persécutés, de gens sortis des ghettos, un peuple au bout de 2000 ans d'écrasement, subitement qui tient en échec le monde arabe tout entier, aidé par le monde socialiste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de la chose, avec le Vatican derrière en plus, okay, à l'époque. Okay. Et puis, j'en profite pour rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, pour mettre en évidence le caractère invraisemblable de ce genre de scrupules pieux, de gens qui doutent de savoir si c'est une fête ou pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de l'histoire. Mais je reviens au problème. Le bilan des problèmes que ça a entraîné est énorme. Et il faut le résoudre pour arriver à continuer. Alors voilà ce qu'on enseigne. Tout ce qui se passe dans cette période, c'est facile. C'est Hesed Elyon. La sortie d'Égypte, on ne l'a pas méritée. Elle nous a été donnée en cadeau. Alors c'est facile. Alors que ce qu'il faut mériter, ça se passe à Tishri. Et là, c'est Yom HaDin. Là, c'est la Midrash HaDin qui joue. Et effectivement, les événements de Tishri ont toujours des événements terribles. En particulier, la guerre de Kippour. Vous voyez, la guerre de six jours, c'est dans l'Omer. Mais la guerre de Kippour, c'est en Tishri. Donc, quand ça se passe à Tishri, c'est difficile. Parce que là, il faut mériter. Mais quand ça se passe entre Pessah et Shavuot, c'est plus facile. Je ne sais pas si c'est clair là, différent. C'est schématique ce que je vous dis là, mais vous le vérifierez dans toute l'histoire d'Israël depuis l'origine. Alors, grâce à Dieu, on se trouve dans la période entre Pessah et Shavuot. J'espère que ça ira mieux. Mais si c'était l'antichri, ça aurait été... Vous remarquerez d'ailleurs que si vous étudiez en détail tout ce qui s'est passé dans la guerre de Kippour, quel jour la victoire a basculé. Essayez d'étudier ça. Vous verrez que ça correspond exactement dans le calendrier du Homer à Yom HaTzmaout. Ça correspond dans la période de Tishri. Le jour où Sharon a traversé le canal de Suez et où les Égyptiens ont perdu la guerre. Et bien, c'était le jour de Rosh Hashanah Rabbah. Pile. Faites ces correspondances et vous aurez des surprises. Alors, vous voyez que nous vivons des choses qui nous dépassent du point de vue des convergences. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'étudier, mais ce n'est pas à notre niveau que ça s'étudie. Simplement, je vais vous mettre en évidence la convergence des significations, surtout du point de vue de la question globale de la période du Homer. Je vais vous citer un midrash qui éclaire cela, qui montre que depuis l'origine de notre histoire, ces préoccupations étaient connues des rabbins. Le midrash situe la querelle entre Joseph et ses frères précisément dans la période du Homer, avant même qu'existe l'histoire de Rabbi Akiva, l'histoire de la guerre d'indépendance aujourd'hui, tout cela. C'est-à-dire quand les frères de Joseph ont vendu Joseph à Shrem, c'était dans la période du Homer. Vous voyez, quand il y a la discorde entre les frères, ça se dévoile à cette période-là. Et vous voyez comment le même thème revient. Qu'est-ce qui a fait que l'armée de Bar Kokhba a perdu la révolte contre les Romains? C'est la discorde des frères entre eux. Et là où c'est le plus comment dire, condamnable, c'est chez les gens pieux, les élèves de Rabbi Akiva. On ne parle pas des autres soldats de Bar Kokhba. Ils devaient aussi avoir des querelles de soldats. Mais on parle des élèves de Rabbi Akiva. Rosh Yeshiva un tel qui méprise le Rosh Yeshiva un autre tel. Et surtout parce qu'ils ont eu le même maître. C'est comme ça que ça se développe dans les familles juives. Vous avez remarqué ce que je veux dire. Alors voilà, ça commence avec Joseph et ses frères. C'est-à-dire tout ce qui met en question l'unité et la solidarité du peuple d'Israël, eh bien, ça se dévoile dans des événements qui se situent à cette période-là. Et on suit ça dans toute l'histoire, tel que le Midrash l'explique. Il n'y a jamais d'exception. Tout ça, ça rentre dans cette période-là. Voilà, j'espère. Vous allez oublier tous les détails, parce qu'il faut étudier ça sur texte. Mais au moins, retenez l'idée essentielle, qu'il y a une période de temps qui fait une unité pour elle-même. c'est la période qui suit la naissance de la sortie d'Égypte et qui doit nous permettre d'arriver à Shavuot, à la libération spirituelle où Israël est enfin Israël. Vous voyez, c'est clair ? Et effectivement, toute la liturgie le montre. L'offrande qu'on offrait à Pessah, c'est l'offrande d'orge, comme je vous avais dit. Et l'offrande qu'on offrait à Shavuot, c'est l'offrande de blé. Et puis à Pessah, le pain doit être le pain sans levain. Alors que dans le culte du temple, à Shavuot, c'est le seul jour de l'année où l'offrande de pain, c'était du pain levé. Parce que ça a réussi. Et ça commence à l'histoire de Joseph. Joseph rêvait de quelque part où le blé pousse. Il faut aller là-bas faire le pain. Et puis, à la sortie d'Égypte, on est allé chercher cette farine, mais le pain n'a pas eu le temps de lever. Il faut arriver au temps où le pain aura le temps de lever. Oubliez tout ça, mais c'est clair. C'est cette histoire qui est vécue dans cette période. Alors, à la sortie d'Égypte, la précipitation a fait que le pain n'a pas eu le temps de lever. Il faut arriver à Shavuot, où ce sera le pain levé que l'on offre. Mais le Midrash explique que l'orge, c'est la nourriture commune à l'homme et à l'animal. Alors que le blé, c'est la nourriture spécifique de l'homme. Et vous voyez la différence de niveau. C'est-à-dire, à Pessah, c'est le corps qui est sauvé. Mais à Shavuot, c'est l'âme. C'est au niveau de l'âme que ça se passe. Je n'ai pas dit que l'âme est sauvée. L'âme n'a pas besoin d'être sauvée. Elle se sauve toute seule. Je veux dire, c'est au niveau de l'âme que ça se passe. Et alors, voilà ce qu'est la période du Homer. Voilà, c'est clair ? Alors donc, pour faire le bilan de tout cela, c'est il nous restera peut-être le temps de voir la dernière question, la différence de rite entre les Ashkenazim et les Sfaradim, mais rappelez-vous qu'il y a trois manières de commémorer le deuil du Homer. Hein ? Soit la manière Sfarad, ça commence à Pessah, ça s'achève, l'Akba Homer. Soit la manière Ashkenaz, ça commence le premier Iyar. Il y a une suspension le jour de l'Akba Homer et ça reprend jusqu'à Shavuot. Soit la manière des Kabbalistes, c'est les 50 jours. Et chacun suit le rite de sa communauté, bien entendu. Et puis alors, l'interruption du l'Akba Homer sert de modèle pour l'interruption du deuil à Yom HaTzmaout. C'est-à-dire pour les rabbins sionistes, demain soir, c'est la fin du Yom HaZikaron. Demain soir, on arrête le deuil et on commence la prière rasé comme pour le mariage. Enfin, rasé, je veux dire, la barbe faite. Et puis on gardera de nouveau le deuil jusqu'à l'Akba Homer où c'est arrêté pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, les sionistes qui ont commencé le deuil le premier Iyar l'interrompent à Yom HaTzmaout et le reprennent jusqu'à Shavuot. La liturgie du Yom HaTzmaout, bon, avec le temps, vous y serez, vous allez passer la prière du Yom HaTzmaout au Machon.
Non.
Ah, vous êtes en vacances. Je dirais. À la synagogue. Oui, alors il suit le rite normal, vous le suivrez avec lui, et on dit le Hallel comme à Pessah, et on sonne le shofar comme à Rosh Hashanah. En fait, c'est un rite qui a été établi par les grands rabbins d'Israël à la libération. C'est un rite qui se base à la fois sur Pessah et sur Rosh Hashanah et Kippour. Dans le rite Sfad, en général, d'ailleurs, on lit le psaume qu'on lit à Pessah. Vous avez compris l'analogie. C'est-à-dire il y a un événement de l'ordre, pas de Purim, de Pessah, c'est-à-dire de la libération nationale après l'exil. Bien. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire, en tout cas. Rachel a retrouvé un texte qui a été... Il y a marqué il y a 45 ans. C'est l'année dernière qu'il y avait 45 ans, le Yom HaTzmaout. Cette année, c'est 46. Oui, alors, ça devrait être l'année dernière que ce texte a été fait. Vous le prendrez tout à l'heure. Il y aura l'essentiel de ce qu'on a étudié aujourd'hui. Ça vous permettra de garder un texte écrit. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez une question là-dessus ? Tout est clair ?
La différence de la pureté de la femme après...
Un garçon et une fille.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les 48 jours de Shavuot,
c'est-à-dire 40
pour la fille ?
Non, non, non. 40 et 48, ça n'a rien à voir. Non. C'est-à-dire, plus la vie est présente, plus l'impureté est grande. ça va faire plaisir aux féministes, étant donné que la vie féminine est plus intense que la vie masculine, l'impureté est plus forte. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Bon, les sages-femmes savent de quoi il s'agit. Je vous donne un exemple. C'est lorsqu'on étudie les lois de la cache-route, on s'aperçoit que plus on s'élève, j'ai employé un vocabulaire évolutionniste, ce n'est pas le vocabulaire de la Torah, mais puisqu'on parle français, plus on s'élève dans le degré d'évolution, d'organisation des règnes vivants, plus les lois de la cache-route se font sévères. Mais par exemple, au niveau du minéral, ce qui est interdit, c'est ce qui est dangereux. Il n'y a pas pur et impur. Mais c'est ce qui est pourri qui est dangereux, impur. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, au niveau du végétal, ça commence déjà à se préciser. Tout dans les végétaux, tout ce qui risque d'être décomposé, vénéneux, etc., c'est déclaré pas cachère. Au niveau des animaux, vous voyez, ça devient de plus en plus, les lois se font de plus en plus précises. Les poissons, la cache-route est plus large que les mammifères, etc. Plus on est évolué, et plus l'impureté est grande, le risque d'impureté est grand. Plus la distinction entre pur et impur est grande. C'est clair? On s'aperçoit que dans l'ordre de la création des êtres, selon le récit de la Torah, c'est la femme qui est créée la dernière. Donc, c'est le stade le plus élevé de l'évolution de l'homme. C'est la femme. Ça vous paraît bizarre, mais c'est comme ça pour la Torah. Et tout se passe comme si, mais ça c'est une blague féministe, l'homme c'est un brouillon de femme. C'est pour ça que les hommes recherchent leur mère dans leur femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Bon, après ça change. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je vais vous donner deux remarques. Le mot de femme, Isha, entre dans le récit biblique avant le mot de Ish, l'homme. Reprenez le récit, les autres carré Isha, qui met Ish Lukarazo. La Torah a prononcé le mot de Isha avant le mot de Ish. Et il faut remarquer ça. Bon, quand on étudie les signes évolutifs dans la race humaine elle-même, on s'aperçoit que dans une ethnie donnée, les signes évolutifs apparaissent d'abord chez les femmes et après chez les hommes. Bon, c'est comme ça, il faut étudier ces choses-là. Bon, s'il y a des gens qui s'occupent de pédagogie, chez vous, vous savez très bien que jusqu'à l'âge de la puberté, les filles sont beaucoup plus précoces que les garçons. Après, les garçons rattrapent. Mais au début, il y a un décalage qui est à peu près jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Okay? Après, ça change. Mais c'est d'abord l'identité féminine qui est en avance sur l'identité masculine. Bon, alors ceci pour répondre à votre question. Okay? Étant donné que l'identité féminine est la source de la vie, alors l'impureté qui la concerne est plus forte que l'impureté masculine. Mais rien à voir avec 40-48. C'est tout à fait différent. Bon, alors écoutez, je vais vous dire en hébreu quelle est la formule du conte du Homer dans les deux rites. Vous allez bien le noter. Hein? Vous avez déjà habitué à dire la formule du conte du Homer. Hein? Alors je prends par exemple le 12e jour du Homer. Alors dans le rite ashkenaz, on dit Ayom Sheneasa Yom, aujourd'hui c'est le 12e jour, Shem Shavua Echad, qui représente une semaine, Ve Arba Yamim, la Omer. Non, c'est l'inverse, ça c'est Sfarad. Je m'embrouille toujours. Mais les mariages mixtes, c'est comme ça. Donnez-moi un sidour que je vérifie, je ne veux pas vous dire de test. Je commence par le rite Ashkenaz. Donne-moi un sidour, n'importe lequel. Il est quoi celui-là?
Sfarad.
Il y a le remède. Voilà, je suis tombé juste dedans. C'est bizarre. Tu as fait exprès ou quoi? Alors voilà, je vous prends le 12e jour. Hein? Qui c'est le chauffeur? Quoi? Ça chauffe? Bon, fini là. Voilà. Ayom, shne masam yom, la Omer. Ça, c'est Sfarad. Hein? Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du Omer. Shem, shavua echad vechamisha yamim. Tandis que les Ashkenazes disent, ayom, shne masam yom, shem, shavua echad vechamisha yamim, la Omer. Vous avez compris en hébreu? Je traduis en français. Chez les Sfaradim, on dit. Donc, j'avais bien dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le douzième jour, si je prends cet exemple, du Omer, ce qui fait une semaine et cinq jours. Tandis que les Ashkenazim disent, aujourd'hui, c'est le douzième jour, ce qui fait une semaine et cinq jours du Omer. C'est-à-dire que les uns comptent les semaines et les autres comptent les jours. Je veux dire, les deux comptent les jours et les semaines. Mais les uns mettent l'accent sur les semaines et les autres mettent l'accent sur les jours. Ça veut dire qu'il y a deux événements. La libération nationale, si elle est considérée comme acquis, on va compter le nombre de jours qui nous séparent de Pessah. Parce que Shavuot est un événement réalisé, c'est Pessah qu'on a perdu, il va falloir donc compter les jours qui nous séparent de Pessah. Ça, c'est le cas des Sfaradim. Alors, pour les Ashkenazim, c'est l'inverse. On considère que c'est Shavuot qui est acquis, et que c'est Pessah qui doit être reconquis. Bon, vous comprendrez ça plus en détail, j'ai pas le temps à cause de votre chauffeur, mais je vous explique pourquoi. Les Sfaradim sont les descendants des exilés du deuxième temple, alors que les Ashkenazim sont les descendants des exilés du premier temple. Tout ça est très schématique, ce que je vous dis. C'est beaucoup plus compliqué. Rappelez-moi, au prochain cours, je vous explique ça plus en détail. Il en résulte que la relation à la religion et à la nation chez les deux traditions sont différentes. C'est-à-dire, le centre de la définition dans le monde ashkénaz, c'est la religion. Et c'est la nation qui fait problème. Alors, dans le monde sfarad, c'est l'inverse. Le centre de la définition, c'est la nation et c'est la religion qui fait problème. Bon, je vous dis ça de façon très schématique. Hein. C'est la raison pour laquelle, lorsque le sionisme contemporain est apparu, l'immense majorité des rabbins ashkenazes étaient contre. Et l'immense majorité des rabbins sfarad étaient pour. Parce que les sfaradim sont les descendants des exilés du deuxième royaume de Juda, c'est-à-dire les sionistes du temps d'Ezra et de Néhémie. Les ashkenazim sont les descendants de Babel qui ont refusé de rentrer au deuxième temple. Et pour les mêmes raisons aujourd'hui, d'ailleurs. Ensuite, ça s'est mélangé. Vous avez des Sfaradim qui ont étudié chez les Ashkenazim, ils sont devenus anti-sionistes. Vous avez des Ashkenazim qui ont étudié chez les Sfaradim, ils sont devenus sionistes. Tout ça, on verra en détail si ça vous intéresse. Mais il y a une grande polarité. L'exil Ashkenaz, c'est l'exil de Babel, avec ses différentes dépendances, de ceux qui ont refusé le retour au temps d'Ezra et de Néhémie. Alors que les îles Sfarad, c'est les exilés des Judéens du deuxième temple. C'est pourquoi il y a une telle différence dans beaucoup de choses, mais particulièrement par rapport au sionisme. C'est clair ce que je dis ? Bon, on verra ça plus en détail la prochaine. Alors ça se revoit même dans cette formule. Alors vous allez vous distribuer.